Alors, très heureux de pouvoir partager la parole ce matin, ici. Et ce matin, quand je prêche le dimanche, je suis beaucoup plus dans l'encouragement. C'est vraiment ce qui me motive, c'est que vous avez eu des semaines difficiles, lourdes. Et j'espère que lorsque vous arrivez le dimanche, vous pouvez être vraiment ressourcé. Donc, c'est ma prière. Ma prédication portera sur Genèse chapitre 2, les versets 15 à 25. Genèse chapitre 2, versets 15 à 25. Je vais lire le texte. Alors, Genèse 2, on est juste après la création du monde. Hein. En 7 jours, c'est un texte qui est vraiment incroyable au niveau de ce qu'il se fait. Et le livre de Genèse, il faut vraiment le voir comme un livre où il y a le livre de nos origines, en fait. Hein, souvent, quand on discute avec les gens, ah, t'es de quelle origine, ah, super et tout, tu viens d'où? Donc, ça nous donne un peu une idée de qui on peut être, etc. Mais au final, on a tous la même origine, on a tous la même histoire à la base, et elle se trouve en Genèse. Et on va pouvoir voir à travers Adam et Ève vraiment le poids de nos origines, le poids de notre histoire. Genèse 2, versets 15 à 16, je lis. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Qu'est-ce qui se passe juste avant jour 1 de la création? Dieu crée la lumière. Jour 2, Dieu sépare les étendues d'eau du ciel et de la terre. Jour 3, il y a un regroupement des eaux. Et Dieu va séparer ce qu'il va appeler la mer, et puis les continents, la terre, et sur cette terre va pousser toute la végétation que l'on connaît. Jour 4, Dieu va instaurer comme une horloge dans l'espace, avec le soleil, la lune, les étoiles, ce qui peut nous aider à les saisons, ce qui peut nous aider à avoir le calendrier que l'on connaît. Jour 5, Dieu crée les animaux marins et les animaux célestes. Et puis jour 6, Dieu crée les animaux terrestres, et Adam et Ève, la création de l'homme et de la femme. Et en fait, dans ce texte, alors, quand on lit ce texte, on se dit, ah, voilà, il va prêcher sur le mariage. Oui, parce que je suis un peu obligé à cause du texte. Mais l'idée, c'est aussi de voir vraiment comment Dieu a préparé le terrain pour Ève, en fait, pour la première femme de l'histoire de l'humanité. Et en voyant ça, j'espère qu'on va pouvoir aller encore plus loin et essayer de voir tout l'impact que l'Évangile peut avoir à travers cette image qui nous est donnée par le mariage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au verset 15, Dieu va donner à l'homme une mission. Il a créé quelqu'un à son image, donc quelqu'un qui peut réfléchir, qui peut imaginer, qui peut interagir avec Dieu sur le plan spirituel, sur le plan de l'invisible. Il est différent des animaux. Il a une intelligence, une réflexion, une sagesse qui peut être portée vers l'au-delà, vers le spirituel. Dieu crée l'homme donc à son image. Et Dieu va lui donner une mission assez particulière. Il va lui donner de cultiver et de garder le jardin, de cultiver et de garder la création que Dieu a mis en place. Et donc l'Éternel va dire à Dieu au verset 16, eh bien, tu peux manger, tu peux profiter de tous les arbres du jardin, avec cette recommandation, verset 17, de ne pas manger cet arbre, des fruits de cet arbre spécifique, celui de la connaissance du bien et du mal, parce que ben, il y a des conséquences si tu manges de ce fruit-là. Adam est mis au travail. C'est intéressant parce que, voilà, pourquoi Dieu a permis que sa créature, le premier homme de l'histoire, soit mis au travail. Dieu a pris du plaisir à voir Adam être mis au travail. Mais pourquoi ? Tout simplement, quand je disais « De quelle origine es-tu ?» si on te pose la question. Et en fait, dans nos origines à nous, en tant qu'être humain, Dieu nous a créés pour qu'on se mette au travail. Alors, peut-être pas forcément pour être un agriculteur ou un fermier, cultiver et garder un jardin, mais Dieu nous a créés pour le servir et pour l'adorer. La vie d'Adam a commencé à prendre tout son sens à ce moment-là, à partir du verset 15, à partir du moment où il a commencé à servir Dieu et à l'adorer, Adam était en parfaite phase dans son identité et dans son rapport, dans sa relation avec Dieu. Au verset un peu plus loin, au verset suivant, il est dit que Dieu prend du plaisir à le voir faire. Verset 19, l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et c'est quelque chose que j'admire dans la parole, c'est que souvent on voit Dieu qui agit d'une façon qui est très lente, d'une façon qui n'est pas terminée, parce qu'il veut que l'on rentre dans son plan, parce qu'il veut qu'on soit impliqué avec lui. Dieu aurait pu permettre qu'Adam ait toute la connaissance et toute l'intelligence pour gérer, il aurait pu créer quelqu'un de complètement fini, formé, accompli, pour s'occuper de son jardin, ou pas du tout, peut-être que Dieu aurait pu s'en occuper lui-même, mais Dieu veut donner vraiment un sens à ces choses-là. Il veut donner de la valeur, autant pour lui que pour Adam. Dieu prend du plaisir à le voir faire. Pourquoi ? Parce que dans nos origines, il faut savoir que si on était créé par un Dieu qui nous appelle à le servir et l'adorer, c'est parce que tout simplement Dieu est un être qui existe pour être servi et adoré. Et ça, nous, êtres humains, on a vraiment du mal à accepter et à concevoir cette réalité-là. De se dire, si vous sortez dehors et vous dites, hey, tu sais que Dieu t'a créé, et il t'a créé pour que tu te mettes à genoux devant lui, pour que tu l'adores dans ta vie, que tous tes choix de ta vie soient au service de Dieu. Les gens vont voir ça comme un esclavage. Et même nous, en tant que chrétiens, parfois, on a vraiment du mal à saisir le plaisir qu'il peut y avoir là-dedans. Quand on pense à l'éternité, passer l'éternité à louer Dieu, à l'adorer, à chanter son nom, quand on lit la Bible qu'il y a ses chérubins et ses anges fantastiques qui sont en train de faire ça en ce moment, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, et ils ne s'arrêtent pas de le chanter, on se dit, mais c'est quoi ce genre de vie-là? Moi, j'ai envie de partir à la plage, j'ai envie de faire d'autres choses, je ne veux pas que louer l'Éternel. C'est quoi ce plan-là? Et c'est vrai que dans notre esprit, ça nous semble tellement ennuyeux, tellement petit, etc. On dit, oui, c'est vrai, c'est ce qu'il faudrait faire, mais on a du mal à avoir le plaisir dans ça. Mais on a été créé pour ça. C'est ce qu'il faut rechercher. Et malheureusement, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Et l'histoire a prouvé qu'à chaque fois que l'homme a essayé de revenir à sa première identité, à ses premières origines, par ses propres forces, ça n'a pas été possible. On en reviendra un peu plus tard sur cette question-là aussi. Alors Dieu fait les choses de manière vraiment magnifique, ça devrait être un spectacle vraiment fantastique de voir tous ces animaux, de voir toute cette faune, de voir toute cette flore, toute cette vie qui est en pleine explosion, et puis Adam qui est là, au plein milieu, et qui va devoir, sans stress, avec tout le temps, sans attendre le prochain train pour la gare de l'Est, des choses comme ça, tranquillement prendre le temps de nommer chaque animal. Vous imaginez ? Vous êtes tout seul sur la terre, et vous devez nommer chaque animal. C'est un travail vraiment qui dure toute une vie, quoi. Parce qu'en plus, pour le nommer, j'imagine qu'Adam a dû prendre le temps d'étudier chaque espèce, pour donner un nom qui est vraiment approprié, qui est vraiment sorti. Nous, on a des noms en latin, scientifiques, hein, quand vous ouvrez les encyclopédies. OK, vous avez le mot girafe, et puis après, vous avez, bon, j'invente, girafus, grandus, quelque chose. C'est sûrement pas ça, mais vous voyez l'idée. Et pourquoi ? Parce qu'on essaie de donner un nom scientifique qui est vraiment approprié à l'espèce, approprié à son caractère, à son mode de vie, etc. Et puis Adam, voilà, a pris du plaisir à étudier, à observer la création de Dieu. Et ça devait être une période vraiment fantastique, une période de paix, une période de tranquillité pour Adam. On peut imaginer Adam qui goûte à tous les fruits, les légumes qui poussent autour de lui. Nous, on nous dit manger 5 fruits, 5 légumes par jour. Il n'y avait pas ce problème pour lui. Il avait tout à disposition. Tout était frais, tout était neuf. Et Adam aussi prenait ce plaisir-là. Il est sûrement qu'il nommait toute cette végétation. Et on peut penser qu'Adam devenait de plus en plus un homme intelligent, un homme cultivé, un homme qui développe un certain savoir-faire, un homme qui est vraiment un caractère qui commence à se forger. On avance un peu plus dans notre texte. Et puis, il arrive un moment où Adam, en force d'observer toute la création de Dieu, il remarque, il y a quelque chose en lui qui commence à germer, il commence à se sentir seul. Alors pourquoi? Sûrement, il voyait les animaux qui étaient en couple, qui faisaient des petits, etc. Et puis, il se posait la question, mais moi, j'ai quoi, moi? Elle est où? Enfin, moi, je suis tout seul. Est-ce qu'il y aurait... je ne pense même pas qu'il se posait cette question, mais en tout cas, un énorme manque se faisait sentir chez Adam. Et c'est là qu'on voit toute la beauté de comment Dieu travaille. Parce que Dieu aurait pu créer Ève tout de suite, et puis, allez, vous travaillez en binôme, et c'est parti. Mais Dieu avait un plan assez précis pour Ève, pour la première femme de l'histoire. Il a préparé un homme pour lui. Et quand ce manque commence à arriver, eh bien, Dieu va faire les choses de façon vraiment miraculeuse, à sa manière. Et au verset 21, l'Éternel fait tomber un sommeil profond sur Adam. Adam s'endort, et puis Dieu, pendant son sommeil, lui va prendre une de ses côtes, refermer la chair à sa place, et puis, à partir de cette côte-là, il va créer la première femme de l'histoire. Il va créer Ève. Et puis, il amène Ève vers l'homme. C'est intéressant de prendre qu'il ait pris la côte. Bon, déjà, c'est un peu bizarre qu'il ait fait ça comme ça. Il aurait pu faire comme Adam, avec un souffle de vie, et puis voilà, la femme qui apparaît. Mais non, il a pris une partie d'os, de l'ossature de Adam, pour créer Ève. Il faut savoir que dans la Bible, les os ont une signification vraiment très, très, très forte. Les os ont la signification, surtout dans l'Ancien Testament, d'une notion d'appartenance très forte. Les os sont les fondements de notre structure, de notre corps, de notre être. Ce sont les éléments les plus résistants du corps humain. Et ils symbolisent les sentiments les plus profonds, l'attachement et l'adoption. Et Adam, sûrement, en se réveillant, il a dû sentir que quelque chose s'est passé dans son corps. Et puis, il tourne la tête, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit cette femme, il voit Ève, et quelle est sa réaction? Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et justement, cette expression est vraiment puissante, elle est vraiment forte, parce que Adam il s'exclame de joie, parce qu'il voit quelque chose qui lui appartient, qui lui appartient, et ce quelqu'un voit Adam qui lui appartient aussi. Cette forte appartenance, cette forte attachement qu'il y a. Et puis on sent que le besoin d'Adam est complètement comblé. Il ne se sent plus seul, il se sent accompagné. Et c'est beau ce qu'il dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et si c'était en hébreu qu'on devait lire ce verset, on dirait on l'appellera Isha parce qu'elle a été prise de Ish, tout simplement. Femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est beau de voir que Dieu prend un morceau d'os de la côte et pas forcément du pied ou de la tête, parce que là, les interprétations, voilà, je pense qu'elles voleraient aujourd'hui dans tous les sens, mais la côte, ça a vraiment cette notion d'égalité, de parité, voilà, on a des rôles différents, on est différents, mais devant Dieu, on est complètement égaux. Et ça, c'est magnifique. Et donc, Dieu instaure le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Qu'est-ce que moi je retiens déjà de cette première leçon? C'est que Dieu n'a pas permis que la première femme de toute l'histoire de l'humanité soit entre de mauvaises mains. Et ça, quand on comprend ça, dans ce texte-là, je ne sais pas, je pense qu'il y a des célibataires ici, mais ça influe quand même pas mal notre pensée. On se dit, mais tiens, si je suis célibataire, ou si je suis déjà marié même, ça veut dire que ma responsabilité à moi est de me préparer pour ce jour-là, pour ce jour où une femme pourrait être potentiellement mon épouse plus tard. Comment est-ce que je prépare, travaille sur ce temps où je suis seul. Ou pendant même que je suis seul et que je ressens ce manque, il faut savoir que ce manque de solitude, il est complètement normal. Dieu nous a créés, on est des êtres sociaux. Il ne nous a pas créés pour qu'on soit seul. Même sans parler du mariage, on aspire à avoir un ami, au moins une personne qui peut nous comprendre, une personne avec qui on peut s'exprimer. J'imagine que même quelqu'un qui n'a personne autour de lui fait l'effort peut-être d'aller voir un psychologue ou quoi, parce qu'on a besoin de parler. Ou il va sur Internet maintenant, il laisse un commentaire anonyme. On a besoin de sortir ce qui est en nous. On est des êtres relationnels, on est des êtres sociaux. Et si aujourd'hui tu es célibataire, fiancé ou autre, eh bien, utilise ce temps pour te cultiver, pour en apprendre sur le monde, sur la création, etc. J'imagine que Ève, quand elle a passé du temps avec Adam, il avait déjà fréquenté plusieurs plages, il connaissait les meilleurs endroits du jardin, il connaissait tous les fruits et les légumes, et il devait même frimer, j'imagine, en lui disant « Chérie, viens voir, je vais te montrer ça, tu connais pas ?» Regarde cette petite plage, une jolie crique, et puis Ève, oh, mais c'est magnifique, t'as vu chérie, c'est magnifique. Moi je vais là le matin, je médite là-bas, tout ça. Voilà. Et en fait, Ève était entre les mains d'un gars qui était ultra intéressant, il était ultra cultivé, ultra intelligent, il avait passé son temps, je ne sais pas combien de temps, à étudier la nature, etc., à avoir de l'expérience, et Ève devait se sentir en pleine sécurité avec son mari. Et c'est magnifique de voir que Dieu a pris le temps pour créer Ève. Il n'a pas juste mis en galère avec un mec paumé qui doit autant apprendre qu'elle, etc. Non, dans un cadre vraiment, vraiment sécurisant, quoi. Et ça, c'est beau. C'est vraiment magnifique. Et ça marche dans les deux sens aussi, pour les jeunes femmes ou plus âgées, si vous êtes seules, de prendre ce temps aussi pour vraiment profiter pleinement de la vie en Jésus-Christ, en Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à m'apprendre? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Comment est-ce que je peux grandir en lui? Et vous sécurisez vos relations, sans même parler jusqu'au mariage, parce que bon, le mariage, c'est le type de relation ultime, hein, je dirais que aime ton prochain comme toi-même, vous l'appliquez à fond dans le mariage. C'est là où vous devez tout supporter, tout pardonner, parce que vous êtes liés jusqu'au bout, et on ne peut pas le défaire, malheureusement, bien sûr, aujourd'hui, il en est autre, mais Jésus a dit à ses disciples que c'est par la dureté de votre cœur que Moïse a mis dans la loi du divorce. Mais ce n'était pas comme ça, la création. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Mais aime ton prochain comme toi-même, eh bien, c'est vraiment une règle d'or. Et Dieu veut qu'on prenne ce temps-là qu'il nous donne aujourd'hui pour vraiment parfaire nos relations, d'abord avec lui, mais aussi avec les autres. On connaît la suite, hein, malheureusement, il y a eu la chute. Et quand on observe aussi la chute, hein, je ne vais pas m'étaler dessus, parce que ce n'est pas le but du message, mais quand on observe la chute, on voit que Ève se retrouvait isolée avec Satan sous la forme d'un serpent pour être séduite, etc. Et Adam n'était pas vraiment là pour la sécuriser, peut-être. Mais en tout cas, il y a eu la chute, il y a eu des conséquences terribles, et j'imagine vraiment la vie, comment elle a dû être dure pour Adam et Ève, qui, eux, avaient connu la perfection, l'innocence. La Bible dit qu'ils étaient tous les deux nus et qu'ils n'en avaient point honte. Moi, si j'étais venu tout nu ce matin, voilà, je pense que j'aurais même pas dépassé le parking. Elle m'aurait dit, mais tu viens prêcher, d'accord, mais il y a un autre problème là à gérer. On peut pas se comporter comme ça, parce que il y a la honte, il y a le péché qui a teinté toute chose et qui a compromis nos relations avec les autres, notre relation avec nous-mêmes, le regard que l'on a sur nous-mêmes, etc., qui a compliqué toute chose. Et en plus de ça, loin, encore pire, le péché nous a séparés de Dieu. Il y a cette mort éternelle qui pèse sur le reste de l'humanité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette mission vraiment d'annoncer l'évangile pour appeler les gens à revenir à leurs origines, revenir à ce pourquoi ils ont été créés, retrouver la relation avec leur Créateur. Le péché a donc tout teinté. Et puis Adam et Ève ont eu une autre vie, ont eu d'autres épreuves, même avec leurs enfants, ça a été compliqué, etc. Mais ce n'était pas comme ça à la création. Ce qui est beau, c'est que Dieu n'a jamais lâché l'affaire sur l'humanité. On voit dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, qu'il a essayé de mettre un peuple à part, il lui a donné tout ce qu'il fallait, même avec des lois, etc., des choses certes très exigeantes, pour que ce peuple soit porteur de son message, puisse être le représentant de Dieu auprès des autres nations. Mais là aussi, c'était compliqué, parce que l'être humain a montré, a prouvé aussi que même quand Dieu était l'autorité, était le chef, de la nation, ben, l'homme n'était pas capable de suivre les ordonnances divines, n'était pas capable de les assumer et de les observer correctement. Alors Dieu est allé encore plus loin, et là on voit dans l'histoire encore que Dieu prend vraiment son temps. Si Dieu avait fait les choses de manière instantanée, quand on ouvrirait notre Bible, on ne pourrait pas voir le point de l'impact de la venue de Christ et de son sacrifice qu'il a fait à la croix pour nous. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? La solution qu'il a trouvée, c'est de venir dans la personne de Jésus-Christ sur la terre. Et en fait, aujourd'hui, si vous placez votre foi en Jésus-Christ, si vous faites de lui votre sauveur, eh bien, en fait, Jésus, j'ai envie de dire, est votre nouveau jardin d'Éden, en fait. Jésus est ce nouveau terrain sur lequel vous pouvez vous épanouir, un peu à l'image d'Adam, sur lequel vous pouvez cultiver. La Bible parle de travailler à son salut. Quelqu'un a un jour dit que travailler à son salut, c'est un peu comme je suis sauvé, j'ai pas à faire quelque chose pour garder mon salut, mais je travaille à mon salut. C'est comme un jardin que j'entretiens et que j'embellis et que sur lequel je peux vraiment m'épanouir dans la foi. Jésus est en quelque sorte ce nouveau jardin d'Éden. Il dit en Jean 10:10 qu'il est venu pour donner la vie à ses brebis, mais pour la donner en abondance. Quand on pense au jardin d'Éden, on pense à l'abondance de vie, on pense à l'abondance de végétation, d'animaux, etc. Et Adam se promenait, il était libre, et il était lui-même, sans habits, sans complexe, sans honte, vraiment dans son jardin, à lui, dans une relation parfaite avec son Dieu. Et Jésus est notre nouveau jardin d'Éden. C'est ici, il nous donne la vie en abondance. En lui, on peut trouver le repos. En lui, on peut trouver le salut. En lui, on peut trouver la consolation. En lui, on peut trouver la joie. Tout se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a absolument rien qui manque chez lui que l'on doit compenser ailleurs. En Actes 1:8, Dieu est allé encore plus loin. Non seulement Christ est mort à la croix, et ensuite il est ressuscité. Et si on place notre foi en lui, eh bien on devient un enfant, un de ses enfants, pour l'éternité. Mais en Actes 1:8, il dit « Et vous recevrez aussi une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, puis dans toute la terre. » Le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est beau ça, de voir que, oui, les hommes ont leur demeure sur la terre, oui, Dieu a sa demeure dans le ciel, comme c'est dit dans les psaumes, mais Dieu a choisi aussi d'habiter en toi. C'est quelque chose de vraiment fascinant, de Dieu qui fait sa maison en toi, dans ton cœur, à toi, et qui prend son plaisir à habiter là-dedans et qui veut t'aider à assainir, embellir cette maison-là. C'est quelque chose qui me dépasse. Je n'ai même pas les mots pour vraiment développer sur cette question-là. C'est quelque chose qui est à méditer, quoi. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et Jésus a dit que jusqu'à la fin du monde, eh bien, je serai avec vous. Dieu n'en a pas terminé là. En Matthieu 16:18, il dit « Je bâtirai mon église aussi ». Et les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre elles. Peut-être que tu te sens seul, tu dis j'ai l'Esprit de Dieu, je suis sauvé, mais Dieu a permis à ce qu'il y ait une communauté autour de toi, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des êtres sociaux, relationnels, et on a besoin d'avoir des gens autour de nous. Et quand on a des frères et sœurs autour de nous qui placent leur foi en ce Sauveur, en ce Jésus-Christ, qui ont vraiment compris cette importance de revenir à leurs origines, de revenir à leurs origines premières, à la source, à savoir être créé pour servir et adorer. Et quand on fait ça ensemble, eh bien, ça nous fortifie dans notre foi, ça nous préserve, ça nous aide ça nous motive à garder le cap et ça nous aide à grandir, à nous fortifier. Dieu n'a pas seulement créé son Église, juste comme ça, en disant, ben voilà, vous êtes une communauté de chrétiens, mais il a pourvu aussi à des dons. Il a pourvu à des qualités, à cette diversité de dons par ce même esprit. En 1 Corinthiens 12, il est dit qu'il y a une diversité de dons, mais un seul esprit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses qui distribue les dons à chacun, en particulier comme il veut. On est tous différents, on a tous des origines, tous une histoire qui n'est vraiment pas la même, mais Dieu a trouvé le moyen de nous réunir et de distribuer des choses en nous, des capacités qui vont faire qu'ensemble, eh bien, quelque chose va pouvoir se construire. Aujourd'hui, voilà, vous êtes dans ce bâtiment, vous réunissez tous ensemble, vous avez vos rencontres en semaine, vous priez les uns pour les autres, et c'est Dieu qui a pourvu à tout ça, parce qu'il a mis des choses en vous qui vous rendent capables de faire tout ça. pas juste de profiter des relations, mais de construire quelque chose qui rentre dans le plan de Dieu et qui rentre dans ce plan qui est de l'adorer et de le servir à lui seul. Et vous savez que l'Église est comparée à une épouse aussi qui se prépare pour le retour de Christ. Et il y aura les noces de l'agneau aussi au ciel, où l'Église, comparée à une fiancée qui s'est préparée, va recevoir son mari, bien sûr, Jésus, et bien sûr, c'est une image. Mais c'est une image qui est vraiment belle, parce qu'effectivement, voilà, si ma femme, la veille du mariage, elle me disait, écoute, je suis allé voir deux, trois mecs en boîte de nuit la veille, j'aurais dit, il y a un problème là, on se marie demain, chérie, ça va pas ou quoi? Et l'Église, elle est appelée à se préparer, à être pure, sainte, sans tache. Ce sont les termes qui sont employés en Éphésiens 5, que je vais vous lire d'ailleurs. Et le Seigneur nous appelle tous ensemble à garder cela à l'esprit. Et c'est un peu comme j'insiste vraiment sur ça, parce que Adam, quand il a été créé, Dieu lui a donné une mission. Voilà, sers et adore. Tant qu'il restait là-dedans, il n'y avait aucun problème. Et c'est justement sur ces deux points-là pour lesquels il a chuté lorsque Satan est venu le tenter. Sers et adore. Si, vous imaginez si chaque chrétien, individu d'une assemblée, se disait « Je me lève le matin pour servir et adorer Dieu », imaginez l'Église 10 ans comme ça, au taquet, avec cette motivation à l'esprit, qu'est-ce qu'elle deviendrait? Ce serait extraordinaire. Le pasteur qui... C'est le rêve de tout pasteur, mais je dirais que ça devrait être notre rêve à tous. Et je sais qu'en réalité, voilà, il y a le boulot, il y a la famille, il y a les factures, il y a tout ça. Mais toutes ces choses-là ne nous empêchent pas de servir et d'adorer. Tu peux payer tes impôts avec un esprit de service et d'adoration. Tu peux sortir les poubelles avec un service, avec un esprit de service et d'adoration. Tu peux partir à Hawaï en vacances avec un esprit de... Tu peux tout faire avec un esprit de service et d'adoration, parce que c'est pour ça que tu as été créé. C'est que le mécanisme de l'être humain, il est fait pour ça. Et si je ne le fais pas pour Dieu, tu vas le faire pour autre chose. Tout simplement, ça s'appelle les idoles, et on connaît les conséquences de ça. Il n'y a pas de place pour les idoles et Dieu, il faut choisir. Il faut choisir, et il faut bien choisir. Il s'agit de choisir le Seigneur, notre Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut servir et adorer? Parce que la réalité, c'est que demain, Christ va revenir. Que tu le veuilles ou non, Christ va revenir, et tu seras prêt, ou tu ne seras pas prêt, ou l'Église sera prête, ou elle ne sera pas prête. Ça, c'est une réalité indéniable. Tu ne peux rien y faire, et il va revenir. Et il faut être prêt, et il faut servir en attendant, et adorer. Et ce n'est pas quelque chose de lourd, ce n'est pas quelque chose de contraignant. Quand je vous ai lu une liste qui est peu exhaustive de tout ce que Jésus a déjà mis en place, il a déjà tout mis pour qu'on puisse être un peu comme Adam et Ève, en fait. Hein. C'est toujours pareil, hein, cette image du jardin d'Éden. Il n'a pas dit à Adam, écoute, tu dois créer un arbre là, essaie d'imaginer quelques animaux là, imagine des animaux qui savent nager. Non, il lui a tout donné. Et il a dit, tu profites, tu passes ton temps avec les animaux, tu manges de tout, tu profites en fait. Et Jésus, c'est pareil, il nous a donné la vie en abondance, il a dit, tu profites de moi. Même quand tu as des épreuves, profite de moi, je suis là, à tes côtés. Tu peux, oui les circonstances sont là, elles ne vont pas bouger, je ne vais pas les enlever peut-être, pour X raisons, mais tu peux profiter de moi. Je suis là, je suis présent au milieu de vous et c'est maintenant qu'il faut profiter. Et un jour il reviendra, c'est une réalité et il faut vraiment s'y préparer. Éphésiens 5, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, pour l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous voyez votre objectif ? Alors, on a fait un petit retour en arrière sur nos origines, servir, adorer. Et qu'est-ce qui m'attend? Oui, je vais aller au paradis, je serai dans la présence de Dieu. Mais en attendant, quelle est ma mission? Et Dieu veut que tu sois vraiment en phase dans ton identité. Quel est le mal de ce siècle, en fait? Je pense qu'un des gros mal, c'est le manque d'identité chez les gens. Même si les gens prétendent savoir qui ils sont, qu'ils ont un arbre généalogique chez eux, il y a toujours, on cherche toujours ces questions existentielles, en fait. On veut savoir quel est notre rôle sur la Terre. Combien de temps on va rester? Il y a toutes ces questions qui nous tourmentent, etc. Et le fait de ne pas avoir de réponse, c'est horrible. Et il y a toute une source de distraction maintenant pour fuir ces réponses-là. Mais ici, vous avez dans ce texte vraiment ce pourquoi Dieu nous a créés, ce pourquoi il nous a appelés. et ce que nous devons être, et là où on est à notre place et là où on peut être épanoui. Le texte va plus loin, il dit « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Verset 32, ce mystère est grand, et c'est vrai, hein, c'est un grand mystère. Comment partir de l'union d'un homme et d'une femme qui va nous aider à comprendre la relation entre Christ et l'Église, c'est un mystère qui est grandiose et sur lequel on peut méditer encore très longtemps. Et si vous êtes marié, ben, peut-être que vous avez l'occasion de apercevoir certaines parcelles de ce mystère qui se dévoile petit à petit. Mais c'est un grand mystère. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors vous avez remarqué, je ne m'étale pas sur le mariage, mais j'essaie de porter cette image, comme la Bible le fait, vraiment plus loin dans la relation que l'on a avec Christ. Et si vous devez retenir quelques leçons ce matin, c'est comment est-ce que j'utilise le temps que Dieu me donne, que vous soyez marié ou pas, comment est-ce que j'utilise le temps que Dieu me donne? Est-ce que je l'utilise pleinement? Imaginez Adam s'il restait dans un coin du jardin d'Éden, et puis Ève qui dit « Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 3 jours que tu es là, là. Bon, j'ai envie de rester là. Mais vas-y, viens, on va profiter de ce coin là-bas, là-bas, là-bas. Non, j'ai envie de rester là, ça va. » Et parfois, la vie chrétienne, on est comme ça. On a Christ, quoi. On a Christ qui est abondant, qui a tout fait. Ouais, ça va, j'ai pas trop envie. Et puis voilà, les années passent et on grandit pas. Et on a une toute petite expérience de la vie chrétienne, toute pauvre. Et un jour, Dieu va dire, c'est dommage, tu aurais pu profiter à un max. Tu aurais pu préparer ton éternité mieux que ça, etc. Alors comment est-ce qu'on utilise le temps que l'on a aujourd'hui? Et ça transforme toute une vie de réfléchir comme ça. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez penser, ça change toute une vie. Vraiment une pensée pour les jeunes célibataires de, voilà les gars, rasez-vous, coupez-vous les ongles, faites du sport, allez sur Wikipédia, achetez des encyclopédies, etc. Prenez du plaisir à étudier. Étudier des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous connaissent pas. Ouvrez votre esprit aux choses, profitez de la vie que Dieu vous donne, parce que ça va être utile plus tard. Moi, je suis content quand ma femme me dit « Ah, Marc, tu m'as appris quelque chose aujourd'hui. » Je dis « Ouais. » Après, je cache le téléphone comme ça. Non, je regarde. Mais voilà, ça a un impact vraiment sur, pas seulement dans le mariage, mais aussi dans vos relations. Et quand vous passez du temps avec Christ aussi, c'est tout bénéfique pour chaque personne que vous allez rencontrer. Il y aura une influence derrière. Et les gens vont dire, mais celui-là, avec la vie qu'il a, ben, il n'y a rien à dire, il a une relation avec Dieu, je l'envie en fait. Ou il m'inspire, dans tel domaine de sa vie, il m'inspire. Vous n'avez pas idée des conséquences, des bonnes conséquences qu'il peut y avoir d'une relation avec. Combien de gens sont venus à Christ tout simplement parce que quelqu'un entretenait sa relation avec lui. Et puis en tant qu'Église, voilà, ben, ça tombe bien, vous avez une AG la semaine prochaine, c'est ça hein. Voilà, et puis on est appelé à garder ce cap. Parfois, dans les assemblées générales, hein, y a des gens qui se réveillent, puis « Ouais, moi, je ne suis pas d'accord, pourquoi on fait pas ça ?» et ça. Puis ça commence à clasher. On se dit « Mais on n'est pas censé travailler en unité, tout ça ?» Mais vous imaginez si vous arrivez tous à l'assemblée générale avec cet esprit de service et d'adoration. On est ouvert. Qu'est-ce que tu as à nous dire, pasteur ou conseil, etc. C'est quoi la prochaine étape? Il fait « Ouais, ok, j'aurais pas fait comme ça, mais c'est pas grave. Si l'œuvre de Dieu avance, je fonce. » Gros fantasme de ma part, désolé. Cet esprit de service et d'adoration. Parce que de toute façon, Dieu, il a tout pourvu et il va combler nos manquements. Et c'est génial, l'Église, ça. Bon, j'exagère un peu, je suis marseillais, je suis désolé. Mais voilà, il y a tout un potentiel, même dans la vie d'Église, que l'on peut-être on connaît pas, qu'on n'a pas découvert, et qui est là, parce que Dieu a pourvu déjà. Et il y a les dons, il y a l'Église, la porte des séjours des morts ne peut pas prévoir contre elle. Vous imaginez cette phrase? L'Église, les portes du séjour des morts n'ont aucun pouvoir sur l'Église. Vous êtes tranquille, vous pouvez faire votre truc tranquille, parce que même si la mort elle arrive, s'en fiche, ça va continuer. L'œuvre va continuer. La mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Et puis c'est cet esprit, cette puissance Dieu qui habite en chacun d'entre nous. Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Amen. Et je vais prier pour conclure. Père Céleste, je te remercie pour, Seigneur, pour ta création, autant la nature que tu as créée autour de nous, et autant, Seigneur, ton Église, toute l'œuvre que tu as créée, que tu as faite.